Le journal présenté par Marc Bertrand.
Bonjour à tous. L'Union européenne se retrouve à Bruxelles ce matin sur la question des migrants. Emmanuel Macron propose des centres fermés sur les côtes de l'Union européenne. L'Italie est en première ligne. Elle refuse et elle appelle la France à accueillir elle-même les exilés. Bref, l'Europe se divise et se chamaille et pourtant l'urgence est là. Le navire Lifeline est toujours au large de l'île de Malte ce matin avec 230 migrants à son bord et aucun port qui accepte de l'accueillir. Un village des services publics installé hier sur la place de la République à Paris. Nous entendrons des manifestants, 120 000 fonctionnaires en moins, ça les inquiète, surtout pour les territoires ruraux. Jour d'élection à Istanbul, les Turcs ont commencé à voter ce matin pour la présidentielle et les législatives. Nous serons sur place. Et puis les klaxons dans les rues de Riyad cette nuit. À partir d'aujourd'hui, les Saoudiennes obtiennent le droit de conduire. Elles devraient être 3 millions de conductrices d'ici 2 ans. Emmanuel Macron veut créer des centres fermés sur les côtes de l'Union européenne pour accueillir les exilés et examiner leurs demandes d'asile. Proposition faite hier en compagnie du chef du gouvernement espagnol Pedro Sanchez pour le sommet européen sur les migrants qui se tient aujourd'hui à Bruxelles. Sommet de crise hein, puisque l'Europe se déchire sur la question. Seulement 16 pays membres seront présents. Les autres boycottent la réunion. Franck Madvon.
Emmanuel Macron et son entourage insistent beaucoup sur un point, la crise que traverse aujourd'hui l'Europe est politique, pas migratoire. Les flux en Méditerranée centrale ont en effet beaucoup baissé, mais les tenants d'une ligne dure sur la question des migrants jouent un rôle majeur dans de nombreux pays. Ils sont au pouvoir en Hongrie, en Pologne, en Italie désormais, où bousculent les gouvernements en place, comme en Allemagne. En proposant des centres fermés d'accueil des migrants en Europe, la France dit offrir une réponse humaine et respectueuse du droit international. Le dossier de chaque migrant serait étudié et ceux qui ne peuvent prétendre à l'asile seraient raccompagnés vers leur pays d'origine avec une aide financière. Mais cette idée coûte cher. Elle suppose un débarquement dans le port sûr le plus proche. Les cas de l'Aquarius et maintenant du Lifeline montrent que l'Italie ne voit pas les choses ainsi. Il faut enfin répartir ceux qui obtiennent l'asile entre pays européens. Aujourd'hui, un sujet de désaccord majeur.
Franck Madvon, et pendant que les pays membres se disputent en Méditerranée, plus de 800 migrants ont été secourus hier au large de l'Espagne. Cette nuit, le navire de l'ONG allemande Lifeline était toujours au large de l'île de Malte avec 230 migrants à bord. La marine maltaise doit venir le ravitailler en mer ce matin, mais il n'y a toujours aucun pays membre de l'Union européenne qui accepte de l'accueillir. Alors, une semaine après l'épopée de l'Aquarius, l'histoire se répète. Le bateau de SOS Méditerranée, qui est d'ailleurs reparti d'Espagne, navigue en ce moment au large des côtes libyennes, sans aucune assurance qu'un port européen voudra bien l'accueillir quand il reviendra. Le président de SOS Méditerranée, Francis Valla, espère que la réunion de Bruxelles va permettre de sortir de cette situation.
Les autorités européennes, quelles qu'elles soient, sont au pied du mur. J'ai tout à fait espoir ou confiance qu'elles ne nous laisseront pas sans solution. Il y a un avant et un après ce qui s'est passé la semaine dernière. Alors c'est très difficile politiquement, et c'est bien pour ça d'ailleurs qu'il faut qu'il y ait une réponse claire de la part des autorités étatiques ou de l'Union européenne. La réponse ne peut pas exister au niveau d'un seul État. Deuxièmement, nous ne sommes ni pour ni contre ces propositions, mais il y a un aspect humain qui est pris en compte, et il y a un aspect sauvetage qui n'est pas oublié. Or, une des choses que nous espérons du sommet, c'est que soit traité non seulement les questions dont tout le monde parle, mais la clarification du contexte du sauvetage. Pour l'instant, les ports italiens restent fermés, tout en observant que les Italiens continuent à sauver. Il y a là une contradiction, c'est de la pure politique. Mais nous, comme il y a un combat anti-ONG, nous ne pouvons pas y aller. C'est vrai que l'Espagne est bien loin, mais il est hors de question que l'Aquarius devienne systématiquement une sorte de nouvel exodus rejeté partout. S'il le faut, à un moment donné, je donnerai instruction d'aller dans un port. On en trouvera, ça ne pourra pas durer.
Le président de SOS Méditerranée qui affrète le navire Aquarius, et il faut rappeler les flux migratoires en Méditerranée sont au plus bas depuis 4 ans. 40 000 personnes sont arrivées en Europe par la mer depuis le début de l'année, contre 1 million en 2014. Un village du service public installé sur la place de la République hier par un collectif composé d'associations et de syndicats qui veulent alerter sur la disparition des hôpitaux, des centres des finances publiques ou encore des bureaux de poste de proximité. Ils dénoncent la suppression de 120 000 postes de fonctionnaires prévus sur le mandat d'Emmanuel Macron. Sarah Maquet a rencontré des participants comme ce militant CGT venu de Ruffec en Charente.
Il n'y a pas beaucoup d'habitants Ruffec, il y a 4 000 personnes. On est à 60 km dans d'Angoulême, 60 km de Poitiers.
Ruffec a perdu l'année dernière sa ligne de TGV direct avec Paris au profit de la LGV. Niveau service public, l'hôpital n'a plus de maternité depuis des années et le service de chirurgie a fermé en 2010. Restent les urgences, 10 000 passages en 2017. Le comité de soutien à l'hôpital de Ruffec, dirigé par Edith Pott, compte bien les garder ouvertes.
Une des craintes, c'est avec le nouveau décret qui est du 31 mai, qui autorise les établissements à ne garder qu'un seul médecin, à la fois pour l'accueil et pour le SMUR. C'est pas qu'à Ruffec, c'est partout en France.
Hélène Derrien, la présidente de la Coordination nationale des hôpitaux et maternités de proximité, est d'ailleurs en train de déployer une carte de France couverte de points rouges.
C'est énorme.
Chaque point représente un hôpital en cours de restructuration ou qui risque la fermeture.
Le pire, c'est les maternités. Donc où on avait à peu près 1200 maternités, on en a moins de 500 aujourd'hui. Ça désorganise le maillage territorial. Ça va être encore du renoncement aux soins.
Pour éviter ça, la Convergence nationale des collectifs de défense des services publics aimerait que la mobilisation prenne de l'ampleur.
Face à Action publique 2022, mis en place par le gouvernement, donc 120 000 postes en moins pour les services publics.
Michel Jalamien en est le président.
La gageure, c'est aussi d'essayer à un moment donné de créer des mouvements citoyens qui s'appuient aussi sur les élus locaux. On a du mal à faire cela et ça serait bien qu'on réussisse à montrer que les territoires se mobilisent pour une manifestation, pas nécessairement à Paris, mais nationale, sur les services publics, nous semble-t-il.
Et selon un sondage Odoxa publié cette semaine, 7 Français sur 10 jugent que les services publics jouent un rôle important dans la sauvegarde des territoires en voie de désertification.
Reportage de Sarah Maquet, place de la République hier à Paris. Des milliers de personnes ont manifesté à Londres hier, 2 ans exactement après le référendum sur le Brexit. Ils demandent un nouveau vote au nom du droit à changer d'avis. Il faut dire que le gouvernement britannique n'a pas tenu toutes ses promesses de départ. Le Brexit sera beaucoup plus douloureux que prévu et les discussions d'association avec l'Union européenne après le Brexit sont toujours au point mort. Des entreprises en grève générale, des manifestants qui sont entrés en clandestinité depuis bientôt 2 mois et maintenant des morts très nombreux au Nicaragua sous la répression des milices paramilitaires qui tirent pour tuer. Le pays se soulève contre le président Daniel Ortega. 212 personnes sont mortes, au moins 5 de plus. Plus hier, dont un nourrisson, dans les assauts des forces de l'ordre contre une université. En Syrie, des bombardiers russes ont attaqué des zones rebelles dans le sud du pays, dans la province de Deraa. C'est la première fois que l'aviation russe bombarde directement les opposants à Bachar el-Assad depuis la trêve que Moscou a acceptée il y a un an. Les Turcs ont commencé à voter ce matin depuis maintenant un peu plus de 2 heures. Élections législatives et élections présidentielles. Recep Tayyip Erdogan a convoqué un scrutin anticipé 1 an et demi avant la date prévue. Face à lui, Muharrem İnce, un nationaliste de 54 ans, état des lieux des enjeux de ce scrutin avec Eric Biegala à Istanbul.
L'opposition en Turquie n'a pas vraiment de programme, pas de proposition, sauf une, battre Recep Tayyip Erdogan et son parti, l'AKP. Le président turc, en effet, ne remplit officiellement qu'une fonction protocolaire actuellement. Il y aura bien un hyper-président en Turquie, au pouvoir très étendu, mais seulement à l'issue de ces prochains scrutins. Sauf que le président Erdogan gouverne déjà comme un véritable autocrate grâce à l'état d'urgence instauré dans le pays après la tentative de coup d'état de 2016. C'est pourquoi l'opposition fait essentiellement campagne contre lui. Nazlı Özhan est l'une des cadres du CHP, le Parti Républicain du Peuple, fondé par Atatürk, le créateur de la République. Le CHP est aujourd'hui le premier parti d'opposition à Erdogan en Turquie.
Il y a un grand risque pour le régime républicain. C'est la première fois dans notre histoire qu'il y a un danger aussi grand. On peut entrer dans un tunnel infini. Aujourd'hui, voter pour nous le CHP, c'est la seule manière de garantir le régime d'Atatürk. Parce qu'ils veulent changer de régime, absolument. Ils veulent revenir au jour des Ottomans, du califat. C'est vrai que l'Empire Ottoman, ça fait partie de notre histoire à tous. Mais aujourd'hui, la Turquie, c'est la République d'Atatürk. Et on ne les laissera pas nous ramener au califat.
Pour la présidentielle, le candidat du CHP, Muharrem İnce, fait une campagne remarquable. Cet ancien professeur de physique, député de Yalova, est un tribun au moins aussi bon qu'Erdogan. Malgré le blackout médiatique, il a pu réunir à ses meetings plusieurs centaines de milliers de personnes, comme ici à Izmir, la grande ville de la côte Égéenne, jeudi dernier.
Erdogan, Türkiye'nin en büyük medya patronudur.
Si Erdogan n'arrive pas à recueillir plus de 50% des suffrages au premier tour ce dimanche, il y aura un second tour, le 8 juillet. Tout indique que Muharrem İnce devrait pouvoir y être son opposant. La Turquie votera alors, plus simplement, pour ou contre Erdogan.
Éric Biegala à Istanbul pour France Culture. Le temps en France ce dimanche, eh bien comme hier, il fera beau et il fera chaud avec presque 30 degrés à Nîmes, c'est la maximale. Attention quand même aux orages sur la Côte d'Azur.